1-2-1-2, ouais, vous êtes bien sur Radio Calaire, et on est lundi, il est 20h, passé comme d'hab, et donc vous êtes bien en train d'écouter NDChain. Et donc, comme à notre habitude, nous avons encore une fois vachement bossé. Et donc, on va faire une émission à base d'une rediffusion. Une rediffusion, mais cette fois-ci, une rediffusion de NDChain. Le meilleur, la crème. Et donc, du coup, en plus, on a décidé de passer ce morceau de NDChain parce que ça rentre dans le sujet dans tous les cas dont on avait envie de beaucoup vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire notamment le concert qui est à venir ce samedi 17 janvier et surtout son contenu, faire face à la prison.
Et ouais, parce que c'est pas seulement un concert, ça commence dès 15h avec des écoutes, des infos kiosques, la possibilité de discuter. Il y aura une projection à 16h30 d'un film qui s'appelle Sur les toits, qui parle des mutineries à Nancy, à Tours, dans les années 70. Ensuite, il y aura une petite discussion sur le film en présence du réalisateur. On reviendra un peu sur les mutineries des années 70 et depuis. Et à 18h, on enchaîne avec une discussion avec de nombreux invités. Une discussion autour de comment survivre, résister, lutter face à la prison, dedans et dehors, aujourd'hui. Il y aura donc des collectifs invités, des collectifs de gens qui se mobilisent autour des tôles, à l'extérieur.
Et forcément,
aussi des anciens prisonniers qui se sont mobilisés, parleront de leur parcours, de la survie à l'intérieur, à l'extérieur, et des luttes, bien sûr. Et voilà, ça sera donc à 18h le débat.
Voilà, ouais, on le répète encore une fois, là c'est l'occasion de discuter au travers de témoignages de gens de l'intérieur et au travers de collectifs qui déjà de longue date font beaucoup à l'extérieur pour expliquer ce qu'il est encore possible de faire dans cette thématique, notamment face à la prison, parce que hormis le fait que ça nous concerne tous de plus en plus, ça dans tous les cas concerne de plus en plus longtemps les gens qui sont dedans. Donc voilà, l'occasion de parler comment faire face à ces longues années. Il y aura donc les parloirs libres et ceux de Radio Galère, un peu les gens de NDChain, mais aussi la cantine pour cantiner qui sont présents pour parler de ce qu'on peut faire dehors. Et il y aura aussi donc Elliot Bess qui sera présent pour notamment parler de ses résistances à l'extérieur, elle qui a si longtemps soutenu donc les militants politiques enfermés pendant de longues années. Il y aura aussi donc Jean-Marc Rouillant qui sera présent, lui, en tant qu'ex-détenu, ayant fait un quart de siècle de prison, pour parler, là, peut-être cette fois-ci aussi, de comment survivre dehors après toutes ces années-là. Il y aura aussi, donc, Afed Ben Othman, une figure, du collectif L'Envolé, et du journal L'Envolé, et donc de son émission de radio aussi, sur Fréquence Paris Pluriel à Paris. Et donc avec en plus donc la présence de gens de Papillon, donc une émission anticarcérale, et des gens des parloirs, des gens de Saint-Étienne, de Lyon, de Son contre la prison, donc qui aussi à l'extérieur ont des pratiques qui leur permettent de créer un lien dedans, dehors, et voilà, tout ça axé autour de résister, qui d'un côté commence par survivre et finit par lutter. Donc voilà, on vous invite grandement à venir à ce rendez-vous-là, et donc et surtout pas à rater le rendez-vous dès 18h et même peut-être bien avant avec le film à 16h, donc Sur les toits, en présence du réalisateur, et donc de parler de ces luttes des années 70, mais dans tous les cas dès 18h pour entendre cette parole de gens, de dedans, de dehors, et en espérant pour le coup que ça sera à l'occasion, non pas forcément pour un déballage des opinions chacune de chacun, plus politique ou moins que chacun, mais vraiment pour apprendre ensemble avec l'expérience de chacun pour une réalité qui risque de nous toucher et qui nous touche déjà en ayant des amis dedans ou en étant déjà passé à l'intérieur, qui est la prison. Voilà, donc que dire de plus pour vous inciter à y venir?
Peut-être on va poursuivre juste par la suite du programme.
Le lieu et...
Ouais, on va parler du concert après, plus que ce n'est qu'une partie en plus.
Voilà, parce que du coup ça se poursuit ensuite avec une cantine végane à 20h30. Voilà, il y aura l'occasion de manger, de bien manger, et puis de mettre un peu des ronds dans la caisse, j'y reviendrai. À 21h30, on poursuit avec des concerts hip-hop, mais pas seulement, avec l'amiral Ladja RPZ, SA, Serna et Shiraz. Et tout au long de la soirée, il y aura des interventions sur la prison. Il y aura aussi un open mic et chacun pourra prendre le micro et déballer ses textes. Voilà, avec bien sûr de quoi boire un petit coup sur place. Le tout, c'est en soutien au collectif Kamel Libre, dont on a déjà un peu parlé sur une des chaînes. Et donc à Kamel, qui est actuellement en prison, qu'on a encore pour de longues années. Je vais juste lire un petit texte de Kamel, un texte un peu court. Voilà, ça s'empire la pénitentiaire. Un empire qui, avec le temps, s'empire. Plus le temps passe, moins il y adhère. Il est vicié, il sent la peine. Purge leur peine, plein de haine. Pas facile les chaînes, la colère te déchaîne jusqu'à en perdre haleine. Voilà, un petit texte de Kamel qui est donc en prison depuis 10 ans et qu'on aurait encore pour 25-30 ans. Voilà, selon si la condamnation se confirme ou non. Et donc, il y a besoin de sous pour l'aider à se défendre, essayer de le sortir de là. Et puis, pourquoi pas subvenir à ses besoins à l'intérieur, si besoin. Et du coup, voilà, on fait appel à votre solidarité, à venir à cette soirée, profiter des concerts, du repas, etc. Mettre de l'argent pour Kamel Libre, mais aussi, bien sûr, venir avant, toute l'après-midi, discuter, écouter ensemble, débattre. Face à la prison.
Voilà, donc tout est prix libre, bien évidemment, et donc avec ou sans argent, il ne faut vraiment pas hésiter à venir. La solidarité passe autant par les gestes, par les mots, que par l'argent. Et
en avant-goût de samedi, on va écouter, la version radiophonique d'une brochure « Comment survivre dans les quartiers de haute sécurité » qui a été faite par des prisonniers américains.
Donc voilà, on rappellera juste une des différences, c'est ça qui est intéressant, on en reparlera aussi sûrement ce jour-là au débat. Donc c'est tiré d'un truc qui a été écrit par les prisonniers, des gens qui aux États-Unis, à une différence près d'ici, c'est que pour certains savent qu'ils vont passer toute leur vie en prison, des gens avec des peines plus longues que les années qu'ils vivront.
Du coup, avant d'écouter la brochure, je rappelle donc c'est samedi 17 janvier, l'événement Face à la prison. Ça se passe à partir de 15h, c'est à la Joliette, au 23 rue des Phocéens, la Torpille, le bâtiment des affaires maritimes. Voilà, et vous pouvez retrouver l'info sur internet en tapant Kamel Libre, collectif Kamel sur Facebook ou en allant sur mars.noblogs.org.
Et on vous attend nombreux.
L'envolée.net aussi. Et voilà, vous trouverez un peu plus de détails, un peu plus d'infos sur l'événement.
Et on vous attend nombreux. Ouais, vraiment, on vous attend
et
nombreux.
Quant à la brochure radiophonique que vous allez entendre, vous pouvez aussi trouver la version papier sur infokiosque.net.
C'est parti. Les quartiers de haute sécurité aux États-Unis ont des noms divers. Cela peut s'appeler Special Housing Unit comme à Pelican Bay en Californie, Intensive Management Unit comme dans les États de Washington, Security Housing Unit ou Restricted Housing Unit, etc. On parle alors de Supermax ou de Super Maximum Security Prison. Mais quelle que soit son appellation, dans un établissement ou un État particulier, le régime de haute sécurité signifie toujours la réduction des contacts humains au minimum et un environnement caractérisé par la privation sensorielle. L'isolement de la personne détenue est au cœur du projet carcéral. Il s'agit en effet d'abord de séparer la personne de ses proches et de son milieu. Mais les bâtisseurs de prison ont rapidement compris que l'ambition affichée de réformer les détenus imposait également de les isoler les uns des autres. L'Eastern State Pénitentiary, en Pennsylvanie, est la première prison construite sur ce principe. Mais quand elle ouvre en 1829, c'est une prison en avance sur son temps. Les quartiers de haute sécurité états-uniens sont le fruit d'une histoire plus récente. La prison fédérale de Marion, dans l'Illinois, est ouverte en 1963. Et c'est à Marion, en 1973, qu'est conçue, pour une soixantaine de prisonniers, l'une des premières unités de contrôle. La même année, le New Jersey et le Massachusetts ouvrent des quartiers de détention similaires. En 1983, en représailles de l'assassinat de deux gardiens, le régime de haute sécurité est appliqué à l'ensemble de la détention à Marion. À partir de ce moment-là, on parle de marionisation des prisons états-uniennes. La première prison dont la construction intègre des impératifs liés au régime de haute sécurité ouvre en 1989. C'est la prison de Pelican Bay et ses fameuses 1200 cellules sans fenêtres. Aujourd'hui, on estime que quelque 25 000 prisonniers et prisonnières, soit 1% de la population carcérale américaine, subissent un régime de haute sécurité, et parmi eux, plusieurs milliers de mineurs. Les procédures de placement d'une personne dans un QHS sont diverses, les critères toujours arbitraires et flous, mais les décisions de placement par l'administration pénitentiaire sont quasiment inattaquables. Le risque de placement dans un quartier de haute sécurité est supérieur pour les non-blancs, notamment en raison du préjugé de l'affiliation à un gang pour les Noirs et les Latinos. On observe également dans les quartiers de haute sécurité une surreprésentation des personnes ayant des handicaps ou des problèmes mentaux, des homosexuels et des personnes trans, des non-anglophones, des musulmans et musulmanes, bien au-delà des seules personnes accusées d'actes de terrorisme, des militants politiques et d'une manière générale, des personnes qui critiquent les conditions de vie en détention ou qui sont procédurières avec le système judiciaire et carcéral. Le régime de haute sécurité implique diverses formes de privation sensorielle, lumière ou à l'inverse, obscurité permanente et dans tous les cas absence de lumière naturelle, insonorisation ou bruit de fond empêchant d'entrer en contact avec les personnes détenues dans les cellules voisines. D'une manière générale, les prisonniers et les prisonnières sont soumis à un dispositif de surveillance extrêmement développé. Ainsi, dans la prison d'Upstate à New York, il y a 370 surveillants et 800 caméras pour 1500 prisonniers. Les contacts humains, y compris avec les gardiens, sont réduits au minimum. Les repas sont distribués par une ouverture dans la porte de la cellule. Les promenades, une heure par jour, s'effectuent seules et il y a rarement des activités culturelles, éducatives ou thérapeutiques. Les possibilités de correspondance et de passer des appels téléphoniques sont réduites et les conditions de visite sont extraordinairement restrictives. À cela s'ajoute l'éloignement des prisons, des centres urbains, ce qui ne facilite pas les déplacements des proches. Par exemple, la prison de Pelican Bay à l'extrême nord de la Californie est à 6 heures de route de San Francisco et à 13 heures de route de Los Angeles, les deux principales villes de l'État. Les mesures de placement dans les quartiers de haute sécurité ne sont pas définies dans le temps. Cette incertitude est un facteur d'anxiété pour les prisonniers, mais elle s'avère généralement longue. Ainsi, en Californie, le temps moyen passé dans ce type de quartier est supérieur à 6 années et demie. Mais côté record, Thomas Silverstein est le prisonnier fédéral qui est depuis le plus longtemps, 30 ans, placé dans un régime sans contact. Quant aux prisonniers d'État Herman Wallace et Albert Woodfox en Louisiane, ils sont à l'isolement depuis 42 ans. Alors, comparer les régimes de détention les plus sécuritaires des prisons françaises avec celles que l'on trouve aux États-Unis est difficile. Le nombre approximatif de prisonniers placés dans les quartiers d'isolement en France, 450 environ, ne dépasse pas celui des personnes en quartier de haute sécurité depuis plus de 10 ans dans la seule Californie. Et pourtant, en France, les QI sont bien là, avec d'autres quartiers, les quartiers disciplinaires, le mitard, les unités pour malades difficiles, etc. Par ailleurs, on peut ajouter le traitement particulier appliqué par l'administration pénitentiaire aux détenus classés DPS, détenus particulièrement signalés, aux militants politiques et à celles et ceux qui se révoltent contre le système judiciaire et carcéral. On espère que cette émission, tirée de cette brochure, donnera quelques bonnes idées à ces prisonniers et prisonnières, qu'ils et qu'elles soient DPS, placés à l'isolement, qu'ils ou elles tâtent souvent du mitard ou purgent une longue peine dans les prisons françaises. Certes, comme l'indiquent certains des auteurs des textes réunis ici, il n'existe pas de recette miracle pour survivre dans des conditions de détention extrêmes. Par contre, ne pas élaborer de stratégie de survie, c'est s'assurer une mort lente.
I don't know what this world is coming to. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound, I made a year ago. I guess you know,
rock and roll coming like a rhino. Tables turn, suckers burn to learn. They can't disable the power of my label. Def Jam tells you who I am. The enemy's public, they really give a damn. Strong Island, where I got a wildin'. That's the reason they're claiming that I'm violent. Never silent, no dope, getting dumb, nope. Claiming where we get our rhythm from. Number one, we hit you and we give you some. No gun, it's still never on the run. You wanna be an S1, group, I'll tell you when. And then you come again, you know what time it is. MP's the president, pulling out my ray gun. Zap the next one, I could be a shogun. Soft and smooth, I ain't with it.
Hardcore,
raw bone like a razor. I'm like a laser, I just won't phase ya. Old enough to raise ya, so this will phase ya. Get it right, boy, maybe I will praise ya. Playing a role I got sold to. Voice my opinion with volume.
Smooth,
not what I am.
Rock,
cause I'm a man. No matter what the name, we're all the same. Pieces in one big chess game.
Yeah.
Est un prisonnier afro-américain originaire d'Oakland en Californie. Il a été condamné à l'âge de 19 ans, en 1976, à une peine à perpétuité, avec une possibilité de sortie conditionnelle. Il a toujours contesté être l'auteur du meurtre du dealer pour lequel il a été condamné. Il est toujours incarcéré. Il écrit ce texte à la prison Supermax de Pelican Bay, en Californie.
Avant de vous dire ce que je pense être les quelques points fondamentaux pour survivre à l'isolement dans les cachots, les trois rats, les supermax, peu importe comment ils veulent qu'on appelle ça. Laissez-moi vous dire trois choses sur lesquelles on peut tous être d'accord. Les barbares d'architectes qui ont conçu ces plans de malades avaient et ont toujours de sérieux problèmes mentaux, à la fois au niveau de leurs relations sociales, mais aussi un complexe d'infériorité. Ces trous à rats ont été délibérément construits comme des lieux de torture pour vous casser psychologiquement et physiquement, et pour que vous vous soumettiez et que vous abandonniez vos propres croyances, etc. L'isolement et les restrictions dans ces cachots que nos enfermeurs aiment appeler « control units » diffèrent selon les états, selon les prisons. L'isolement est plus ou moins total, les restrictions plus ou moins nombreuses. Toujours est-il que leur structure et leur utilisation sont malveillantes et qu'ils sont faits pour contrôler votre existence et vos façons de penser. Cela m'amène à un autre point très important que j'aimerais reprendre de Carter G. Woodson. Si vous contrôlez les pensées d'un homme, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de son comportement. Quand vous déterminez ce qu'un homme va penser, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce qu'il va faire. Si vous faites sentir à un homme qu'il est inférieur, vous n'avez pas besoin de le forcer à accepter un statut inférieur, puisqu'il va de lui-même le rechercher. Si vous faites ressentir à un homme qu'il est un banni, vous n'avez pas à lui ordonner de prendre la porte. Il s'en ira sans qu'on ait rien à lui dire, et s'il n'y a pas de porte de service, il en réclamera naturellement une. Je suis en prison depuis maintenant 20 années, dont 18 passées dans plusieurs quartiers de haute sécurité, depuis la prison d'État de Folsom, San Quentin, brièvement, puis les nouvelles cellules d'isolement plus high-tech des prisons d'État de Corcoran et maintenant de Pelican Bay. Je suis ici depuis 1990. J'ai de nombreuses années d'expérience dans ces trous à rats et j'ai vu pas mal de personnes abandonner toute force intérieure et toute croyance parce que dans leur tête, ils ne pouvaient plus supporter la torture mentale, l'isolement, les restrictions matérielles, etc. Ces individus ont renoncé et se sont cassés car ils ont loupé la clé essentielle qui permet à la conscience intérieure de donner la force de survivre à l'isolement. Ça fait des années qu'on me demande régulièrement « Comment avez-vous été capable de survivre à tout ça et d'être encore intact mentalement ?» Mes réponses sont très simples. 1. Je sais qui je suis et où je vais. 2. Je ne laisse pas le temps avoir de l'emprise sur moi, je fais mon temps. 3. Mon esprit et mes pensées sont dehors, bien loin des murs de la prison. Il n'y a que mon corps qui est prisonnier. Pour dire cela plus simplement, 95% de mon temps quotidien est passé à écrire et à penser à l'extérieur de la prison. Maintenant, je voudrais partager avec les personnes qui ne connaissent pas tout cela ou qui n'ont pas encore développé leur conscience intérieure afin d'avoir la force de survivre. Voici mes tuyaux pour survivre et utiliser l'isolement à votre avantage. 1. Débute une nouvelle vie. Commence par étudier ton histoire, ta culture et toi-même. 2. Prends des engagements forts envers toi-même. 3. Pense aux manières dont tu peux contribuer positivement à ta communauté. 4. Écris des lettres avec tes idées et des informations afin de te connecter aux jeunes et aux vieux. Envoie tes lettres aux membres de ta famille, à tes amis, à des églises, à des journaux progressistes, à des animateurs radio, à des artistes, à des étudiants, à des avocats. Écris sans cesse, ne t'arrête pas. Tu n'auras sans doute pas de réponse à chaque lettre que tu écris, mais tu en auras quelques-unes. Certains peuvent aider les nôtres, ou alors ils peuvent aimer tes idées et vouloir t'aider. D'écrire constamment ces lettres permet de consolider tes changements intérieurs au-delà des seuls mots. Ton attention n'est plus seulement sur ton isolement actuel, donc tes pensées ne sont plus contrôlées. Savoir quelle est ton histoire et ta culture te donnera de la fierté et du respect pour toi-même. Mais tu dois élever cela à un autre niveau, en te connectant à dehors, en t'investissant dans une mission positive. C'est ainsi qu'on peut survivre à ces trous à rats, car ta capacité à savoir qui tu es et ton aptitude à penser à dehors enlèvent à ces barbares tout pouvoir de contrôle sur ton existence et tes pensées.
Look like bad luck and trouble. Lord, it tries to follow me. Look like bad luck and trouble. Lord, it tries to follow me. Yes, I'm in love with that little woman, but I just had to leave her be. Lord, look here now, baby. You ain't nothing like you used to be. Yeah, look here now, baby. You ain't nothing like you used to be. Man, if I catch you with my little woman, Lord, I'll stain you like a bee. She said, I don't have to wait. I wear diamonds every day. Cause all of my women, they do what I said. I don't have to pay no rent. You know, buy nothing to eat.
cause I got a swing on the city. God, no, baby, can't be beat. That's the one. Baby, you belong to me. You're a good little girl. You ain't nothing like you used to be. Yeah.
Laura Whitehorn est née en 1945. Elle a été membre du Weather Underground Organization, puis du Mays 19th Communist Organization, qui a revendiqué, entre 1978 et 1985, des attentats contre les pouvoirs racistes et impérialistes aux États-Unis. Elle a été arrêtée en 1985 et inculpée de l'attentat au Capitole de 1983. Elle a été libérée en 1999.
Pour moi, la chose la plus importante qui m'a permis de survivre à mes nombreux passages en isolement a été le refus de renoncer au pouvoir. Je veux dire, toujours garder à l'esprit à quoi sert l'isolement, c'est-à-dire se souvenir de ce que l'État essayait de faire en me mettant là, et donc d'utiliser mes capacités de compréhension pour résister à leurs plans. Cela veut dire notamment, petit 1, me faire un programme quotidien, plutôt que de laisser les gardes décider de mes journées. Petit 2, avoir des emplois du temps différents et les utiliser alternativement, afin d'éviter que les jours se ressemblent, savoir quel jour on est et la date exacte. Petit 3, utiliser les signes extérieurs, comme les changements de luminosité, les changements de service, les bruits venant de l'extérieur de ma cellule, pour garder une idée du temps. Les premières semaines, j'avais noté tous les bruits ou les occurrences objectives. Puis, après, je demandais aux gardes l'heure qu'il était. Petit 4, développer plusieurs formes d'exercices pour différents jours et différents états de forme physique. J'ai appris le yoga et j'ai fait de la musculation. Et je courais quand j'avais la possibilité d'aller dans la cour. Petit 5, développer des activités créatives qui me permettent d'admirer ma propre créativité humaine. Par exemple, dessiner, écrire, fabriquer des choses avec de la récup. Ça m'a aidé à me rappeler que ma place dans l'univers est celle d'un être humain sensible, aimant et créatif, et non d'un animal encagé. Petit 6, apprendre quelque chose. Entreprendre d'étudier quelque chose et faire marcher son cerveau afin qu'à chaque transfert, je puisse constater que j'ai progressé plutôt que l'inverse. Petit 7, écrire des lettres. Trouver des correspondants. Avoir une communication active avec l'extérieur. Petit 8, pour moi, en tant que créature politique, il était essentiel d'être abonné à un grand journal. J'ai ensuite réussi à le partager clandestinement avec une autre prisonnière. J'avais la chance d'avoir des amis qui me l'envoyaient. Dans les prisons pour femmes ou dans la plupart des quartiers d'isolement, l'accès aux médias est réduit. Petit 9, j'ai combattu pour chaque parcelle de ce que j'avais supposé avoir, droit à, selon les lois. C'est dur de ne pas être plein de colère et de frustration quand on se bat ainsi. C'est pour ça qu'il m'arrivait d'écrire une lettre enragée à un gardien ou à quelqu'un d'autre, où je disais tout ce que je voulais, puis je la déchirais. C'était assez thérapeutique. Le gardien Burkhart, à la prison d'Alderson, lorsqu'il a répondu à ma contestation de mon placement à l'isolement, a répondu que c'était en raison de mes associations et convictions. Savoir ce que sont les objectifs de vos ennemis vous permet de ne pas leur donner ce qu'ils recherchent. Dans mon cas, lorsque je sentais et que j'étais particulièrement victime de mauvais traitements, je pouvais toujours trouver de l'espoir et de la force dans le sentiment que c'était un honneur d'être détenu dans de telles conditions. Comme ce que disait le président Mao dans cette vieille citation que nous aimons tant sur le fait que c'est bon d'être détesté par son ennemi. Finalement, à propos des quartiers d'isolement, comme leur but est de déshumaniser, de détruire la personnalité, chaque individu doit concevoir son propre programme de survie, basé sur son identité et le sens qu'il donne au fait d'être un humain. La manière dont une personne exprime et contrôle sa colère n'est pas forcément bonne pour une autre. Par exemple, pour certaines personnes, s'occuper est important. Pour d'autres, la tranquillité et l'intériorité sont importantes. Les ressources, internes ou externes, dont chaque prisonnier et prisonnière dispose, font aussi une grosse différence. C'est une des raisons pour lesquelles les groupes militants sont si importants. En fait, je crois que chaque personne qui a passé du temps en prison, et le double pour celui passé en isolement, souffre physiquement. Si ce n'est pas aussi mentalement. Que ce soit reconnu, disons, par les forces internationales anti-torture, aide. Je crois que c'est Stuart Gracian qui a observé que les femmes dans les LEX, Lexington Aid Security Unit, avaient développé des maladies en conséquence directe à leur placement à l'isolement. Quand j'ai lu ça, ça m'a aidé à comprendre les méfaits de ma propre santé causés ou aggravés par le temps passé à l'isolement. Venreremos, nous vaincrons.
SW 9mm, check. Long nose double barrel rifle, check. Semi-automatic infrared laser beam shot, check.
All right, Puff, I'm ready to go. Do the clips around the shoulders, toasters in the holster.
Kim, let's go.
Slow down, babe, bro, you with the rap Rambo. Tony Montana, here's a hammer, a camera, and a life after death bandana. Here, take it, in case I don't make it. Cause if my life don't end, I'm damn sure gonna fake it. The way I see it, sexual, in the gunfight, 2-on-3, you want me, dog. I got shit to make the world shake. One mistake, blah, start an earthquake. Fuck them niggas dust to me. And if I knock Cyrus off, that's a plus for me. And the funny thing about it, I'm a bitch. And got niggas running from me, like the Olympics. And I told my man Gutter I'ma get him. And every shell I spit is guaranteed to hit him. Blah.
Pressure don't be low.
Calling like the holy cabinet. Down in a minute, I'm drinking a Snapple.
A Snapple? Bitch, I got bombs and shit. Grenades and razor blades and alarms and shit. You better come on. Girl, throw a hat on that weave. I'm trying to catch this nigga Cyrus for him and his boys leave. They at this restaurant to serve African food. But you allowed to smoke weed in the way there's a tight groove. See, I used to date this bitch from Botswana. Half African, but she looked like Madonna. And yo, check it, she had a tiger for a pet. I never forget, the restaurant is where we met. And her girlfriend Lizette, that bitch is a freak. I used to fuck her in the ass while my girl was asleep. And she the one who told me where these cats is at. I can't wait to get the gat and holler back. Kim, come on!
Came to a red light, gave right away to pedestrians, two black and white lesbians. The nigga Puff ready to holla at these bitches. I'm like, yo, dog, them bitches down with them niggas. And never would the drugs make a bitch slack up. I got hitmen, spread it through the restaurant for backup. We communicate through headsets and walkie-talkies. Them niggas just bitches like my York. Pigs like the pork. We on point like snipers. Uh-huh. Cyrus and his doolies is clueless like the movies. Uh-huh. All I can think about is how we killed my man Smiles. Cut his head off. Massacre style. Yeah, Cyrus did it. Cyrus the virus, they call him. When I finish with him, please. His name is Swiss Cheese. My main focus is his right hand man Mouse. He's shiesty and two-sided. Profession dick rotted. And his boys, they seem to be all on his dick. I mean, the whole situation is really making me sick. And when Cyrus got up and dipped off to the bathroom, we started sucking niggas up like a bathroom. Bullets flying, unstopping, bodies dropping. Puff yell, yes, the cops did. My trigger finger started itching. The Cyrus came spitting from the kitchen. The next second, he missed. It sounded like the 4th of July. Like the solar eclipse is lit right in the sky. I can't believe this guy. He won't fall over. Holes in his body the size of cup holders. One more shot, he's over. Shit, Puff, I'm empty.
Damn, I only got one shot left.
But I'ma hold my breath till he falls to his death. But he was hell. This little kid squeezed off in his hell.
Fresh shot don't be low.
Pressure, pressure, pressure.
Fire in the hole.
Manuel de survie pour les détenus placés à l'isolement et les victimes de la répression carcérale par Khalfani Malik Khaldoum.
Dans la plupart des cas où les détenus sont placés à l'isolement, ce n'est pas pour ce qu'ils sont supposés avoir fait, mais pour ce qu'ils pourraient faire ou seraient capables de faire.
Incarcéré depuis 1987, Khalfani Malik Khaldoum a été placé à l'isolement en 1994, après le meurtre d'un gardien dont il se dit innocent. En 2000, il a été jugé coupable par un jury uniquement composé de blancs. Il est incarcéré aujourd'hui au quartier de haute sécurité de la prison de Pendleton, in Indiana. Il est possible de lui écrire.
L'administration pénitentiaire sait que le placement d'une personne en isolement repose en grande partie sur une évaluation purement subjective des prisonniers et sur les prédictions d'un comportement futur et des jugements subjectifs qui sont nourris par un grand nombre de stéréotypes et de préjugés sur les prisonniers. Espérons que ce manuel sera instructif pour les prisonniers qui sont nouveaux à l'isolement. Avec les récents abus à l'encontre de prisonniers en Irak, davantage d'attention a été portée aux abus systématiques à l'encontre de prisonniers et aux arguments classiquement utilisés dans la politique américaine au sujet de la justice criminelle. En réalité, si une perspective critique n'est pas adoptée, les prisonniers continueront d'être abusés. Essayez d'abord de réfléchir à cette affirmation fallacieuse selon laquelle les politiques reposant sur l'incarcération punitive marche. Notre pays est indiscutablement un leader dans ce domaine. Au 30 juin 2002, le pays incarcérait 701 personnes sur 100 000, soit plus de 4 fois le taux habituel dans les autres pays soi-disant démocratiques. Peu de pays ont investi autant que les États-Unis dans les prisons de haute sécurité, les supermax, où les détenus difficiles doivent, selon la mentalité américa-caca, être placés. Cette politique ne marche pas. Les chiffres de la criminalité sont plus élevés que dans la plupart des autres pays industrialisés. Et les abus sur les prisonniers sont plus élevés dans les prisons de haute sécurité que dans les établissements ordinaires. L'administration actuelle continue de nier l'utilisation de la torture pour obtenir des informations. Ce qui est arrivé à la prison d'Abu Ghraib n'est pas un incident isolé, comme aimerait nous le faire croire notre gouvernement. Une telle affirmation ignore le fait que des officiers états-uniens sont poursuivis pour au moins 9 homicides de prisonniers qui ont été battus par des personnels états-uniens avant ou pendant leur interrogation et qui en sont morts. Dans beaucoup de cas, aucune enquête n'a été réalisée avant que l'affaire d'Abu Ghraib n'éclate au grand jour. C'est ce qui s'est passé partout dans le monde, d'Irak jusqu'en Afghanistan, en passant par Guantanamo. La torture est justifiée par des juristes qui ont trouvé le moyen de contourner la Convention de Genève. Des juristes du département américain de la justice ont produit en août 2002 un mémo permettant de justifier l'utilisation par les États-Unis de la torture de prisonniers sans violer les lois internationales ou américaines qui pourtant l'interdisent de manière explicite. Certains de ces abus sont physiques et d'autres psychologiques. L'utilisation continuelle de quartiers de haute sécurité et de prisons comme Florence dans le Colorado constitue une guerre psychologique. J'espère que ce manuel sera utile à tous les prisonniers placés dans ce type de détention. Gardez la pêche.
1. Être utilisé pour légitimer le régime de haute sécurité.
Nous devons nous interroger sur les intentions que révèlent l'utilisation et la légitimité des quartiers d'isolement.
Khalfani Malik Khaldoum.
Dans toute l'Amérique, des prisonniers sont aujourd'hui isolés car étiquetés à haut risque, qu'ils soient militants ou procéduriers. Les cadres de l'administration pénitentiaire réclament plus de sécurité et plus d'argent pour pouvoir ouvrir encore plus de quartiers d'isolement. Certains prisonniers ont l'intégrité et le courage de questionner les conditions oppressives dans lesquelles ils sont obligés de vivre. Une fois connus comme étant des agitateurs, les prisonniers sont considérés comme des problèmes ou des problèmes potentiels. Une fois sur la liste des prisonniers à risque, vous pouvez être placé sur la liste des détenus surveillés par l'administration pénitentiaire. Et ce statut va permettre à un comité de classification de vous foutre dans n'importe quel quartier de haute sécurité de l'État dans lequel vous êtes incarcéré. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces placements à l'isolement arrivent même lorsque les prisonniers visés n'ont commis aucune violation. Ils sont isolés parce qu'on craint leur influence dans le reste de la population carcérale. L'administration déclare parfois qu'elle craint que certains prisonniers commettent des actes de violence et, en les plaçant dans un quartier de haute sécurité, elle dit qu'elle s'assure ainsi qu'ils n'en feront rien. Dans ce pays de racistes, l'administration pénitentiaire ne veut pas voir un nouvel Attica. Ça, j'en suis sûre. Il faut également relever un autre point. Ils se servent de prisonniers réputés pour leurs engagements, pour légitimer l'existence de ces quartiers de haute sécurité. Il y a beaucoup de prisonniers qui ont réussi à s'opposer aux violations qui existent dans beaucoup de quartiers de haute sécurité. Cela leur a permis d'aider l'administration à améliorer ses façons de torturer, de martyriser et d'isoler. Pourquoi je dis ça ? Beaucoup de prisonniers qui ont porté plainte contre la prison peuvent admettre que notre travail militant a permis de rendre publiques les violations et parfois la justice a agi. Mais dans d'autres cas, les juges ont laissé le pouvoir raciste discrétionnaire dans les mains de l'administration pénitentiaire afin qu'elle agisse comme il lui plaît. Cela ouvre une fenêtre d'opportunité pour rendre publiques les violations, mais cela ébranle également les bases sur lesquelles nous menons les batailles légales. Il faut donc toujours avoir cela à l'esprit, car c'est à ces défis que nous sommes exposés. Prendre position en prison conduit les prisonniers toujours plus loin dans le ventre de la bête américaine. Et l'administration pénitentiaire sait bien que, historiquement, l'isolement a été utilisé pour rendre les prisonniers fous et casser leur résistance. Pour conclure cette section, je vais souligner quelques points à méditer. Ce sont des choses dont le lecteur qui découvre le guide devrait toujours se souvenir pour survivre à cette folie. Apprends exactement pourquoi tu as été placé à l'isolement ou listé comme personne à surveiller. Tiens à jour un dossier de toutes tes plaintes, requêtes. Demande et garde une copie de chaque lettre que tu envoies à l'administration. N'aie pas peur de questionner la légitimité de ton placement à l'isolement, que ce soit auprès du directeur de l'établissement ou de la direction de l'administration pénitentiaire. Écris aux sénateurs, aux députés et aux élus de la région où tu es incarcéré. Décris-leur les violations des droits humains qui s'y déroulent. Écris aux journaux locaux pour leur décrire tes conditions de vie. Contacte les médias et suggère-leur de venir visiter la détention. Ces choses ne sont pas difficiles à faire. Elles sont même plutôt simples et elles devraient être intégrées dans le programme quotidien de tous les prisonniers qui se trouvent à l'isolement. Les agents administratifs en charge de ces quartiers rangent les humains comme des choses inutilisables qui se détériorent, pourrissent et puis meurent. Si tu veux vivre, alors donne-toi le courage de mener la lutte pour ta survie.
Le droit et les politiques en vigueur dans les quartiers d'isolement.
Des circulaires, règlements et lois organisent les quartiers de haute sécurité. Beaucoup de prisonniers qui se retrouvent dans ces quartiers ignorent cette réalité. Si tu ne sais pas qu'une loi ou un règlement a été violé, tu ne peux pas tenir quelqu'un pour responsable de cette violation. Les prisonniers doivent obtenir des copies de tous les règlements et lois qui organisent leur traitement. Ceci est un impératif. Après la lecture de ceci, tu pourras comprendre ce qu'ils ont le droit et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. L'administration pénitentiaire sait souvent que les jeunes surveillants sont plus enclins à violer les droits des prisonniers. La plupart savent que si tu n'arrives pas à renseigner ta plainte contre la violation de tes droits, c'est comme si cela n'était jamais arrivé. Donc, ne pas documenter les plaintes, c'est comme renoncer avant d'avoir commencé. C'est à toi de faire ce travail. Les quartiers de haute sécurité repose sur des politiques qui varient de détention en détention ou de prison en prison. Leurs caractéristiques sont la fréquence des abus, la réduction des stimuli environnementaux et des activités éducatives ou de loisirs, et un haut niveau de sûreté et de contrôle des mouvements. Toutes les politiques ne sont pas suivies, mais tu dois étudier ces politiques. Cela permet à ceux d'entre nous qui sommes attaqués de nous protéger. Être enfermé dans une cellule 23 heures sur 24 par jour nous donne beaucoup de temps pour étudier et mémoriser toutes ces règles, politiques, procédures, règlements, et pour les utiliser pour contrer les responsables de notre placement dans ces unités. Ayant déjà passé de nombreuses années en prison, je sais aussi que ce travail est épuisant. Néanmoins, le plus souvent, c'est notre détermination et notre cohérence qui font que les gardiens nous respectent. Quand nous commençons à abandonner trop facilement ou simplement, à ne jamais nous opposer au mal qui nous est fait, l'administration pénitentiaire ne voit plus notre capacité à la défier. Ce qu'ils font aujourd'hui est tout simplement dû à notre manque de connaissances juridiques. Nous devons nous améliorer en apprenant à interpréter le droit. Cela sera comme recharger une arme. Sans munitions, ton arme ne sera d'aucune utilité. Arme-toi. Point à méditer. Les prisonniers doivent créer un dossier mis à jour de toutes les règles, règlements, circulaires, etc. qui sont en vigueur dans leur détention. Sois attentif au langage juridique, comme « ils peuvent » ou « ils doivent », car c'est ce qu'ils nous donnent les moyens de contrecarrer leur violation de leurs obligations. La plupart des bibliothèques de prison sont tenues par des prisonniers. Nous devons entretenir de bonnes relations avec ces prisonniers, car ils peuvent nous aider à avoir accès à des documents légaux. Nous devons envoyer des copies de ces règles, règlements et circulaires à nos proches. Les former sur ces choses ne peut que nous aider dans notre combat à long terme. Les quartiers d'isolement prennent des vies humaines et volent les âmes des prisonniers. Nous devons continuer le travail que d'autres ont commencé pour stopper la construction des quartiers d'isolement. Il faut révéler dehors la vérité cachée derrière les mensonges de l'administration pénitentiaire, qui a tant besoin d'un environnement de contrôle et de manipulation psychologique.
3. Construire une solidarité de base avec les co-détenus.
Les prisons ont toujours été des lieux où les hostilités pouvaient être créées par ceux qui les administrent. Simplement afin de nourrir un conflit perpétuel entre prisonniers blancs et prisonniers noirs. Pourquoi ? Il est facile de répondre à cette question en étudiant leur politique. En perpétuant les violences raciales en prison, l'administration nous empêche de voir quel est le vrai problème. C'est la tactique classique du diviser pour mieux régner. Et la plupart du temps, ça marche.
Khalfani Malik Khaldoum.
Cette tactique ne nous empêche pas seulement d'avoir une vue exacte du problème. Cela nous empêche également de développer des relations de solidarité. Quand nous ne travaillons pas ensemble, nous devenons vraiment vulnérables aux attaques qu'ils mènent sans crainte de représailles. Quand nous essayons de lutter ensemble pour de meilleures conditions de vie, cela ne peut pas se faire sans qu'un respect mutuel soit établi. Cela n'est pas facile, puisque les prisonniers ont des idéologies, des religions, des croyances politiques différentes et que ces différences obstruent parfois notre chemin. Mais la conscience politique est grandissante et se développe dans toutes les prisons américaines, ainsi que l'unité et la compréhension collective au sein de ceux visés par les politiques répressives. Nous devons construire une solidarité fondée sur des bases inébranlables. Les militants doivent savoir et accepter qu'ils n'auront pas le soutien de 100% des prisonniers. Parfois, c'est même ceux qui n'y participent pas qui tirent le plus gros avantage d'une lutte. Les prisonniers qui exposent les violations ne sont parfois pas ceux qui souffrent le plus. C'est pourquoi nous devons avoir de bonnes relations avec au moins la moitié des détenus là où nous nous trouvons. Et peu importe là où nous nous trouvons, quartier d'isolement, quartier de haute sécurité, etc. L'administration pénitentiaire, qui déteste être poursuivie, exposée, objet de recherche, va favoriser ces franges réactionnaires. Elle va approuver la brutalité de ses agents à ton égard. Qu'ils te fassent des sales coups ou même te tue. C'est un fait, et tu n'as pas intérêt à t'isoler de tes camarades détenus, parce que tu peux avoir besoin que quelqu'un appelle ou contacte ta famille pour les informer des abus à ton égard. Donc, il est crucial de se positionner comme la personne qui aiderait les autres prisonniers à coup sûr s'ils en avaient besoin. Comme ça, même si des prisonniers t'envient ou te détestent, à tort, ils se sentiront néanmoins obligés de t'aider. C'est ça la clé, et tout le monde devrait s'y plier. Nous devons davantage être perspicaces dans notre situation, et nous devons apprendre à reconnaître ce qui peut être à notre avantage. Nous avons tous une direction. Beaucoup d'entre nous ont fini par comprendre quelle était la direction à partir de leurs erreurs et de leurs essais. Si nous ne découvrons pas le sens de notre vie, notre âme restera comme une coquille de noix sur une mer déchaînée.
Quelques points à méditer.
Ne rentre pas dans le jeu de l'administration quand elle pratique le diviser pour régner. Quand tu essaies de créer l'unité entre prisonniers, montre-leur toujours ce qu'ils ont en commun en tant que prisonniers situés dans des conditions oppressives similaires. Tous les prisonniers ont droit à la parole, devraient être entendus lorsque sont discutées les difficultés auxquelles ils doivent se préparer dans la confrontation à l'administration des quartiers de haute sécurité. Encourage le travail collectif et la responsabilité entre les prisonniers sur lesquels tu as de l'influence. Chacun a un rôle à jouer dans la lutte en prison. Développe parmi tes codétenus la ligne de conduite qui fait que si un prisonnier est attaqué, alors cela signifie que vous êtes tous attaqués. Tu vas ainsi construire une solidarité qui va au-delà de ce qui est généralement attendu en prison, notamment racialement.
Organiser un programme de formation.
L'isolement carcéral produit des détériorations physiques et mentales. Une des façons efficaces de lutter contre l'instabilité mentale est d'avoir un solide programme de formation. Ce quartier crée des psychoses et il en résulte que la santé mentale des prisonniers se dégrade lentement. Dans la plupart de ces quartiers, les prisonniers sont autorisés à voir la radio ou la télévision. Cela sert de moyen de distraction et d'évasion. Mais l'abus de l'un ou de l'autre peut servir à maintenir un détenu satisfait de son sort. Avec les émissions télé, on peut perdre de vue la bataille légale et le combat pour la liberté. L'administration utilise beaucoup de distractions de ce type pour pacifier la détention et maintenir son contrôle sur la population des prisons et de ses quartiers. Trop d'humilité peut devenir de la couardise, donc nous devons rester forts physiquement, mentalement et spirituellement. Les prisonniers doivent acquérir l'habitude de lire sur les sujets qui leur procurent de la force, en leur donnant la sagesse, la connaissance et la compréhension. Si tu ne veux pas abdiquer ton âme ou devenir la victime de ton statut d'isolé 23 heures sur 24, construis-toi un programme de formation afin de stimuler ton développement personnel. Les discussions de groupe aident vraiment dans les petites détentions ou les petits quartiers d'isolement. La privation sensorielle qui écrase et affecte les prisonniers rend l'isolement encore plus difficile à supporter. Des activités constantes de lecture, écriture et communication avec la famille et les amis sont des armes qui permettent de combattre les effets de l'isolement. Nous devons maintenir un flux stimulant d'informations. Lire nous permet de développer de nouvelles idées et de garder l'esprit actif. Un corps et un esprit en mouvement restent en mouvement. Un corps et un esprit immobile restent immobiles. L'isolement carcéral peut jour après jour voler à une personne ses capacités à penser rationnellement et de manière critique. Nous devons en permanence apporter à notre esprit les stimuli nécessaires. Des habitudes saines d'études aideront à combattre la folie. Tu seras la prochaine victime si tu ne te prépares pas dès maintenant.
Quelques points à méditer.
Les prisonniers qui aiment lire, faire leurs propres recherches et partager leurs documents politiques devraient organiser une bibliothèque populaire dans les quartiers de détention. Les prisonniers peuvent utiliser les temps libres pour organiser des jeux pédagogiques de toutes sortes. Les prisonniers peuvent enrichir leur vocabulaire en étudiant le dictionnaire. Cela permet également de mieux communiquer avec les personnes à qui on écrit ou parle. Les prisonniers qui croient qu'il existe un être ou une puissance suprême doivent faire le nécessaire afin que leurs besoins spirituels soient comblés. Cela aide à surmonter le stress ressenti dans ces quartiers. Les prisonniers devraient trouver une ou deux personnes dehors qui partagent certains de leurs centres d'intérêt afin de rester connectés avec l'extérieur. Cela est crucial pour maintenir ta santé mentale.
5. Construire sa base de soutien.
Les prisonniers qui sont placés à l'isolement ou dans des quartiers de haute sécurité doivent admettre qu'ils ont besoin d'un fort soutien à l'extérieur. Beaucoup d'entre nous avons encore des relations fortes avec nos proches, mais il y en a également beaucoup parmi nous dont personne à l'extérieur ne se soucie suffisamment pour les aider. C'est pour cela que c'est extrêmement important pour nous de construire des liens au-delà de notre rapport avec la famille, avec des personnes qui, dans tout le pays, s'intéressent à la survie des prisonniers. À mon avis, la mission de l'administration pénitentiaire est le plus souvent de détruire les liens et les relations que nous avons développées avec les gens qui sont de notre côté dehors. Ces liens sont vitaux lorsqu'il s'agit d'être aidés. Nous avons tous besoin de gens qui ne passent pas leur temps à nous juger et qui vont nous accepter tels que nous sommes et qui vont être de notre côté dans notre combat pour la liberté. Donc nos soutiens doivent s'unir à nos proches dans la lutte. Quand on n'a personne pour passer un appel au bureau des matons, du gouverneur ou du juge qui va diffuser des informations sur ce qui se passe dans notre détention ou sur ce que les matons nous font subir, et dans ce cas, on risque davantage d'être victime d'abus. Quand la répression carcérale n'est pas combattue, les surveillances de prison ont tendance à se lâcher. Donc nous, en tant que prisonniers, devons former et informer les gens pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur pour que les surveillants restent calmes. Au fil des années, ça s'avère efficace, car des gens à l'extérieur savent parfaitement comment nous aider, les surveillants se mettent presque toujours à agir correctement. Cela est parfois compliqué à mettre en place, car les gens peuvent avoir du mal à travailler tous ensemble. Les conflits personnels, les batailles d'ego, le manque de confiance en soi ou d'autres facteurs peuvent saper les efforts collectifs. Les connexions entre les proches de prisonniers et les militants doivent être comprises par les uns et les autres dès le début de notre lutte pour notre liberté. Nos proches et nos amis veulent la même chose, c'est-à-dire nous voir rentrer à la maison en sortant par la porte par laquelle nous sommes entrés en prison. Voilà ce qu'ils partagent à l'extérieur. Il faut vraiment que tu arrives à organiser un comité de défense constitué de gens qui te sont loyaux. Ce comité te représentera. À l'extérieur, le travail de ton comité consistera à faire savoir aux juges, à tes avocats que tes soutiens se préoccupent de ton cas. Ils t'aideront à récolter de l'argent pour que tu puisses payer ton avocat ou en désigner un si tu n'en as pas encore. Ils t'aideront à faire connaître tes conditions de détention et les batailles légales que tu mènes dans les prisons américaines. Une forte base de soutien est très importante pour plusieurs raisons. Personne en prison ne devrait être laissé sans soutien. Mais des prisonniers qui sont la cible perpétuelle de l'administration pénitentiaire devraient plus que les autres être soutenus, car ce sont ces hommes et ces femmes qui sont en train d'essayer de faire changer le système oppressif.
Quelques points à méditer.
Constitue ton comité de soutien pour t'aider à maintenir ta liberté et ta survie et exposer les conditions de vie dans les prisons et le quartier où tu es prisonnier. Essayez d'établir une relation riche avec les amis qui te rendent visite régulièrement. Cela aide à se concentrer à ce que ton existence ne tourne pas uniquement autour de des conditions de vie. Envoie toujours une carte ou une lettre de remerciement chaleureuse aux personnes qui te soutiennent dehors et qui te montrent de l'amour et de l'attention à ton égard. N'abuse jamais de ces relations, car sinon tu risques de le regretter quand tu seras seul et déprimé. Si tu as besoin d'argent pour ton combat judiciaire, pense à des moyens originaux de récolter de l'argent. Tes soutiens peuvent vendre des t-shirts, des badges, des casquettes qui montrent leur soutien pour ton combat. Les prisonniers peuvent écrire des recueils de poésie, des brochures sur l'histoire, la vie en prison, leur vie, et une fois mis en page proprement, cela peut être vendu par internet ou sur des tables de presse.
6. Devenir actif dans sa propre survie.
Il y a quelques années, un codétenu m'a donné un bon conseil pour lutter contre les sévices de l'administration pénitentiaire. Il m'a dit qu'il fallait être actif dans notre manière de nous opposer à l'oppression. Beaucoup de ceux d'entre nous qui ont passé ici 10 ans ou plus ont vécu de sales moments et ont vu la prison changer. On a vu, aussi, comment les quartiers de haute sécurité se sont mis à proliférer, dans tout le pays. Nous n'avons pas réussi à nous préparer, et maintenant, nous nous retrouvons enterrés dans ces tombeaux. Nous préparer, ça aurait voulu dire que nous aurions anticipé tout cela. Aujourd'hui, Beaucoup d'entre nous ne sont pas actifs lorsqu'il s'agit d'exposer ce que sont ces quartiers et les gens qui les dirigent, de peur de représailles ou que des accusations mensongères soient faites sur eux. Mais ça doit changer, si nous voulons un jour, vraiment, faire cesser la façon dont ils nous envoient dans ces quartiers. Leurs comportements sont arbitraires et ils sont responsables du mal psychologique qu'ils créent chez de nombreux prisonniers. C'est historiquement prouvé que l'isolement crée et créera de la folie. Et l'isolement renforce toutes les pathologies mentales existantes chez une personne. Sans aucune stimulation mentale d'aucune sorte ou moyen de se défouler physiquement, toute la vie d'un individu devient un processus de détérioration. L'auteur de ce texte a été dans les quartiers de haute sécurité pendant 16 ans. Je soutiens que l'administration pénitentiaire a utilisé l'isolement pour me punir et casser ma volonté de résister. Je reste fort et je résiste, mais je serais en train de mentir si je disais que je n'ai pas été affecté par le temps très long que j'ai passé à l'isolement. Nous sommes les victimes de l'arrogance et des travers purement racistes de ceux qui dirigent les prisons. Vous n'êtes pas tous d'accord qu'il faut qu'on apprenne à se protéger sans toujours utiliser la violence ? Les prisonniers doivent faire le nécessaire pour que leurs mots se retrouvent entre les mains de gens qui sont en position de les aider. Nous sommes en train de mourir dans ces quartiers de haute sécurité. Certains en raison de leur santé qui se détériore, d'autres parce qu'ils se sont battus à mort ou torpillés par les techniques d'emprise psychologique qui détruisent les capacités à se contrôler et à être rationnels. Sur le long terme, on gagnera à exposer les abus qui se passent en prison, les conditions de vie misérables, la mauvaise alimentation et toutes les violations de nos droits. L'administration pénitentiaire a pris l'habitude d'intimider les prisonniers qui portent plainte contre eux, en sortant des rapports sur des incidents fabriqués de toutes pièces, en restreignant leurs mouvements, en détruisant les lettres qu'ils reçoivent de l'extérieur, en effectuant des fouilles de cellules, des petites confiscations de livres ou de documents juridiques, ou même des tentatives de meurtre, en manipulant des codétenus. Nous pouvons vivre debout comme des humains, en luttant contre ces injustices, ou agoniser doucement, comme des froussards, à genoux. Nous ne devons jamais penser que nous n'avons pas le droit de protester et de dénoncer les abus qui se passent en prison. Être actif, ça veut dire prendre notre destinée entre nos mains. Maintenant.
Quelques points à méditer.
Sois attentif à tout changement, même graduel, dans la détention. Cela te permettra de prévoir de nouvelles stratégies contre tes oppresseurs. Encourage tes codétenus à inciter leurs proches à publier des communiqués de presse et à les adresser à tous les médias possibles. C'est important d'interpeller le monde entier. Écris des lettres à des associations comme Amnesty International pour leur demander de soutenir tes plaintes. Fais un dossier avec tous tes documents.
Utiliser son accès illimité aux textes juridiques.
Quel que soit le type de détention dans lequel tu as été placé, tu as la possibilité d'avoir accès aux textes juridiques.
Quelques points à méditer.
Procure-toi des copies de toutes les décisions dans lesquelles l'administration pénitentiaire a perdu contre des prisonniers. Apprends toutes les lois et règles qui régissent le comportement des surveillants dans la détention où tu te trouves. C'est comme ça qu'on peut les remettre à leur place lorsqu'ils ne respectent pas les règlements. Apprends quels sont tes droits en tant que prisonnier afin de pouvoir exposer dans les médias ou les tribunaux comment ils sont violés. Ceci est facilement incorporable à la vie quotidienne à l'isolement. Et apprendre les textes juridiques qui protègent nos droits ne peut qu'être utile pour l'avenir. Le traitement inhumain qu'on subit en prison peut engendrer de l'aigreur et la perte de l'estime de soi. Après avoir passé un certain temps dans les quartiers d'isolement, les défauts de caractère des prisonniers prennent le dessus. La vie dans un environnement confiné rend extrêmement difficile le retour à la vie civile. L'administration pénitentiaire va devoir admettre les pathologies qui naissent de ces confinements prolongés.
8. Participer activement à toutes les activités possibles.
Beaucoup de prisonniers à l'isolement ne peuvent pas suivre un enseignement supérieur, mais ils ont la possibilité de passer le bac ou de suivre gratuitement des cours par correspondance. Lorsqu'on se retrouve devant un juge pour un appel ou un aménagement de peine, c'est connu que les certificats de suivi de formation sont bénéfiques. Chaque prison peut également offrir des activités spécifiques pour les usagers de produits stupéfiants, le contrôle de la colère, etc., et vous pouvez obtenir des certificats de participation. Quand un prisonnier décide de ses activités et ne reste pas passivement à la disposition de l'administration, il reprend en main sa vie. C'est très important de jouer un rôle actif dans votre survie et dans votre développement émotionnel, social et politique. Les gens sont très influencés par les discours des médias américains. Le gros de leur propagande est anti-prisonnier. Donc, quand les prisonniers sont punis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les citoyens ne se pressent pas pour nous aider. Mais en montrant ce qu'on a réussi à faire en détention, on détruit beaucoup de mythes ou de stéréotypes répandus. Ceci est extrêmement important. Prends en charge ta vie en te la réappropriant. Les prisonniers ont le droit d'écrire aux élus locaux, à leurs représentants, aux sénateurs et aux autres pour se plaindre de l'absence de programme éducatif. Si les prisonniers n'arrivent pas à mettre les responsables au pied du mur, il n'y aura pas d'avancement sur ce sujet. Point à méditer. Renseigne-toi sur les cours par correspondance et demande systématiquement un certificat d'inscription, de participation ou de réussite. Écris aux universités de la région où tu es incarcéré et essaie d'établir des relations avec des professeurs d'université et des professionnels susceptibles d'avoir de l'empathie pour ta situation et qui pourraient s'impliquer personnellement dans la poursuite de tes études. Lorsque tu commences à avoir des certificats ou des diplômes, il vaut mieux en faire des copies et en envoyer une à ton domicile et en garder une avec toi en détention. Inscris-toi dans tous les cours de développement personnel auxquels tu peux participer et encourage tes co-détenus à faire de même. Agir, c'est anticiper. Si tu n'as pas le bac et que tu veux l'avoir, alors fais le nécessaire. Il n'y a que nous qui pouvons nous éduquer. On doit d'abord se transformer avant de faire changer la société. Tout ceci est simple, et si ta démarche est sincère, cela t'aidera pour prendre le contrôle de ta vie. Arrête de prendre du temps et de l'énergie dans des activités qui ne contribuent pas à ton propre développement. Dans les prisons américaines, il y a un haut degré de désespoir qui jaillit sur quasiment chaque prisonnier. Ce désespoir fait que beaucoup de prisonniers n'ont plus le courage de se battre pour leur liberté. Personne n'aidera un prisonnier tant que nous n'aurons pas fait connaître notre volonté de nous battre. Dans notre combat pour résister à la folie qui touche ceux qui sont en prison et placés à l'isolement, la force et la persévérance doivent devenir nos meilleurs alliés. Le complexe industrialo-carcéral espère voler l'âme et la vie des prisonniers qui sont placés à l'isolement en détention. Si tu n'es pas prêt à mourir, lève-toi et bouge-toi.
De ta cellule un laboratoire.
La privation sensorielle est bel et bien utilisée par l'administration pénitentiaire dans les quartiers d'isolement de ce pays. Enfermés dans ces unités, les prisonniers sont obligés de faire de leur cellule un véritable laboratoire. Nous devons étudier, écrire, faire du sport et créer dans ces cellules. Dans la plupart des cas, tu as une cellule pour toi tout seul. Dans certains quartiers, il y a 2 détenus par cellule, ce qui peut faire beaucoup lorsque les prisonniers sont très actifs. Ces cellules ont une taille comparable à celle de vastes WC dans une maison ordinaire. Nous passons la plupart de notre temps dans ces cellules. Donc, nous n'avons pas d'autre solution que de trouver des manières inventives d'utiliser l'isolement à notre avantage. Personnellement, je pense qu'il est crucial d'utiliser les périodes d'isolement pour développer le contrôle de soi. Lorsque nous contrôlons notre moi, nous avons gagné notre première bataille pour la liberté. Parce que sans liberté intérieure, tu ne connaîtras jamais la liberté tout court. Un autre point très important est la nécessité de développer un bon programme d'études et de méditation. Cela aide à combattre les sensations négatives que l'environnement peut faire naître en nous. Cette petite cellule doit devenir ton laboratoire où tu t'établis d'inébranlables fondations, où tu développes ta maturité et où tout ce dont tu as besoin est à portée de main. Nous ne devrions jamais laisser notre développement personnel dans les mains de l'administration pénitentiaire. Nous sommes nos propres libérateurs. Nous nous éduquons nous-mêmes. Ceux d'entre nous dont la détermination nous aide à survivre dans ces horribles quartiers d'isolement sont très méritants. Ces quartiers sont construits pour contenir, réprimer et isoler la résistance des prisonniers du reste de la population carcérale. Quotidiennement, les prisonniers des quartiers d'isolement des prisons américaines sont torturés et déshumanisés. L'horreur de ce dont ce peuple américain a été témoin à la prison d'Abu Ghraib en Iran n'est pas quelque chose de nouveau pour nous. La torture et la déshumanisation sont des outils communément utilisés par l'administration pénitentiaire pour détruire les gens dangereux dans les quartiers d'isolement. Les prisonniers sont étouffés, étranglés, pendus et électrocutés au taser. Ils se meurent et personne ne semble y accorder de l'importance, à part quelques militants dévoués. En tant que révolutionnaires et que militants anticarcéraux révolutionnaires, nous devons travailler dur pour révéler tous les abus qui se passent en prison. Les prisonniers doivent apprendre tout ce qu'ils peuvent de toutes les violations qui ont lieu pour les révéler à l'extérieur. Fais de ta cellule un laboratoire.
Quelques points à méditer.
Constitue ta propre bibliothèque avec des livres et des documents récents et de bonne qualité qui t'aideront à stabiliser tes fondations. Cela doit aussi inclure des livres spirituels. Développe tous les moyens de communication possibles avec ceux qui s'intéressent à ta liberté et à ta survie. Constitue-toi un programme d'exercices physiques stimulants qui fasse travailler le cœur, les abdominaux, les jambes, les bras, etc. Un bon programme fait des merveilles sur le mental, le corps et l'âme, et ça réduit la tension artérielle. Entoure-toi toujours de personnes optimistes et ton état d'esprit sera toujours positif.
10. Former sa famille à constituer un groupe de soutien.
Nous devons d'abord avoir une vision de ce que seront les objectifs de ce groupe de soutien, de quel type de personne sera constitué, et si ces personnes pourront te représenter en ton absence à l'extérieur. Quand nous voulons créer un groupe de soutien qui se focalise uniquement sur notre libération, c'est impératif de former nos proches et de leur fournir des documents sur les manières dont ils peuvent concrètement nous aider. Un groupe de soutien personnel est extrêmement important, car il va être notre voix à l'extérieur. Un comité de soutien sera capable de mobiliser l'attention des médias et de rendre public ton combat. Les médias écoutent plus volontiers les gens à l'extérieur que les prisonniers, donc tu dois leur donner des indications sur ce qu'il faut qu'ils fassent. Un comité de soutien peut aussi aider à récolter de l'argent afin d'engager de bons avocats. L'argent peut aussi être utilisé pour t'aider à survivre en prison pendant que tu te bats pour ta liberté. Les quartiers d'isolement sont des lieux lugubres où les hommes comme les femmes croupissent. Les prisonniers qui ont déjà un comité de soutien devraient encourager les autres afin qu'ils se constituent également en comité de soutien. Tout le monde en prison a besoin et désire un filet de sécurité. Et avoir un groupe de gens dehors qui vous aidera est très important. Notre survie dépend de l'aide que nous recevons de dehors.
Quelques points à méditer.
Constitue ton comité de soutien et engage les membres de ta famille en qui tu as confiance. Il est important d'avoir une adresse postale dehors pour recevoir le courrier. Les adresses personnelles ne devraient jamais être données à des inconnus. Ton comité de soutien doit avoir un ordinateur et une imprimante pour pouvoir communiquer sur ta situation ou autre. Ton comité de soutien devrait faire un site internet afin que soient mises à disposition du public les informations que tu veux partager. Les créations artistiques, la poésie ou les autres activités auxquelles tu t'adonnes doivent apparaître sur ton site. Ton comité doit organiser les donateurs et disposer d'un compte bancaire pour pouvoir accepter les donations en ta faveur. Ces points sont simples. Et si tu veux vraiment te constituer un comité de soutien, fais-y attention. Agir permet de construire quelque chose de durable. Si tu ne te bouges pas toi-même, personne ne le fera. Je n'ai pas toutes les réponses, et probablement que je ferai encore des erreurs. Mais si je n'arrive pas à apprendre d'elles, alors tout aura été fait en vain.
Nous avons choisi ces textes car ils nous semblent également contribuer à répondre aux questions que l'on se pose dehors lorsqu'on soutient des prisonniers et des prisonnières placés à l'isolement ou victimes de la répression carcérale. Nous sommes en effet convaincus que la survie et la capacité à lutter des prisonniers reposent bien moins sur leur personnalité et leurs caractéristiques personnelles que sur l'environnement amical, social et politique auquel nous, dehors, pouvons contribuer par la correspondance, les visites ou les luttes auxquelles nous participons. Et cette brochure s'inscrit dans la lutte contre les régimes de haute sécurité et plus généralement contre tous les enfermements.